Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez certainement deviné, nous allons parler de chevalier, et pas n'importe lequel. L'un des plus illustres. Il a créé l'ordre le plus fameux de l'histoire, les Templiers. Des soldats de Dieu dont les activités tournaient autour de trois éléments. Prier, tuer et s'entraîner à tuer. Probablement les meilleurs soldats du Moyen-Âge. Je veux vous parler du créateur de l'ordre des Templiers, Hugues de Pin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destin d'immigré. Je vous conterai le destin de femmes et d'hommes illustres et moins illustres à la recherche d'une vie meilleure. Ils ont voyagé à travers le temps et l'espace, et c'est leur histoire que je vais vous raconter. Si cet épisode vous plaît, parlez-en autour de vous et notez-le sur Apple Podcasts. Cela aide énormément l'émission à se faire connaître. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir les mystères d'un homme, Hugues de Pin. Il a commencé sa vie comme petit seigneur de Champagne, pour finir comme interlocuteur privilégié du pape et des rois d'Occident. Il est le créateur de l'ordre des Templiers, ordre protecteur des pèlerins se rendant en Terre Sainte et du Saint-Sépulcre, le tombeau présumé du Christ. Nous découvrirons ensemble le Moyen-Âge, cette époque si particulière où l'essor de l'Occident est en marche. On commence à sortir des ténèbres d'un demi-millénaire suite à l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Cet essor a plusieurs facettes, à la fois lumineux et cruel. Nous essaierons ensemble de comprendre les origines des croisades, qui ont encore une résonance terrible dans l'histoire actuelle. Avant de passer au récit, quelques mots sur le Moyen-Âge. Il existe plusieurs définitions, mais pour faire simple, disons qu'il commence à la chute de l'Empire romain d'Occident, donc concrètement à la chute de Rome en 476, lorsque Romulus Augustule fut déposé par Odoacre. Cela marque donc la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Concernant la fin du Moyen-Âge, il y a plusieurs dates possibles. Celle que je préfère étant la chute de l'Empire romain d'Orient en 1453 avec la prise de Constantinople par les Ottomans. Cette période de l'histoire est donc définie par la chute des deux empires romains. On entre ensuite dans la Renaissance. Le Moyen-Âge est certainement la période la plus violente et terrible de notre histoire moderne. Nous avons perdu une grande partie des savoirs de l'Antiquité et elle est marquée par les guerres et épidémies, comme la peste noire, qui tue près de 50% de la population européenne en seulement quelques années. C'est l'époque des raids vikings, et aussi des croisades, un sujet qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'une croisade? Comme vous le savez, le Christ est mort à Jérusalem, ville où il aurait été aussi enterré. Cette ville est à l'époque dans une région sous contrôle musulman. Le but des sept croisades qui vont émailler le Moyen-Âge seront de conquérir et de sécuriser un état en Palestine, permettant aux pèlerins d'aller se recueillir sur la tombe présumée du Christ, le Saint-Sépulcre. Un petit brief sur les différents pays à cette période, au moment de notre histoire, vers 1100. L'Espagne actuelle est tombée aux mains des musulmans, la France a à peu près les mêmes frontières qu'aujourd'hui, l'Angleterre a été conquise par Guillaume le Conquérant, un royaume s'est créé sur les cendres de l'Empire romain d'Occident, le Saint-Empire romain germanique, qui regroupe l'Allemagne et l'Italie actuelle. La Turquie est elle aux mains de l'Empire romain d'Orient, et pour faire simple, vers l'est et le sud de la Turquie, tous les territoires connus sont musulmans. La terre que l'on dit sainte correspond à l'Israël actuel, et détient les lieux sacrés des trois principales religions, chrétiens, musulmans et juifs, d'où les tensions qui se poursuivent malheureusement dans la zone jusqu'à aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, et passe au récit. L'histoire commence un certain 9 février 1074, à Pin. Un petit bébé né, Hugues, deuxième du nom, de Pin, fils d'Hugues de Pin. Ou plutôt Hugo des Pins, en vieux francis, car oui, nous sommes dans le royaume des Francs. Depuis une centaine d'années, Hugues Capet a mis en place la dynastie des Capétiens. Lui-même élu par ses pères, il implémente un système royal héréditaire. Ses descendants se succèdent, l'un après l'autre, à la tête d'un état particulièrement instable. En effet, le roi a des pouvoirs directs sur une zone correspondant peu ou prou à la région parisienne. Le reste du territoire est organisé en duchés et comtés, un peu comme la région actuelle, et sont administrés par des comtes et des ducs. des nobles donc, ayant fait allégeance au roi. Ça, c'est pour la théorie. La pratique est plus complexe. Les nobles ont la fâcheuse tendance d'être turbulents, en se battant entre eux pour plus de territoire, en refusant de payer l'impôt, voire de complètement changer leur alliance et de se retourner contre leur roi. Le royaume est donc instable, pendant une période particulièrement violente. Les raids vikings ont certes cessé, avec eux leur lot de massacres, mais une nouvelle menace fait face aux portes de l'Europe. Les différents peuples musulmans sont à l'offensive. Revenons à notre Hugues de Pain. Pain est une charmante petite bourgade qui devait contenir quelques dizaines de familles. Des cultivateurs et éleveurs, pour la plupart en servage, auprès de leurs suzerains. Leur servage est un système légèrement édulcoré de l'esclavage qui est interdit par l'Église. On se situe en Champagne, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Troyes. L'itinéraire d'Antonin, une sorte de guide de routard de l'époque antique romaine, en fait mention au IIIe siècle. Apparemment, c'était un bon endroit pour traverser la Seine à gué. Notre jeune héros grandit à Montigny, sur le domaine de sa mère. C'était une famille de petite noblesse, donc oubliez les superbes châteaux forts, on est plutôt sur une ferme améliorée en pierre et non en bois comme les bicoques des autres paysans. Son éducation tient sur deux pieds, la foi en Dieu, l'entraînement au métier des armes. Sa vie se résumera presque à ces deux éléments. Dès 7 ans, il entre au service d'Hugues de Troyes, le comte de Champagne. Il devient donc page, le premier statut dans la longue formation au métier de chevalier. Il aide aux écuries et commence l'instruction au combat. À 14 ans, il devient écuyer et suit son suzerain à la guerre en s'occupant de ses armes et de son cheval. Et à 21 ans, il devient chevalier au terme de la cérémonie d'adoubement où il reçoit son épée.
Sois sans peur en face de tes ennemis. Sois brave et droit pour être aimé de Dieu. Dis toujours la vérité, même si cela doit te coûter la vie. Sauvegarde les faibles et garde-toi du mal. Tel est ton serment. Et ceci pour ne pas l'oublier.
Debout, chevalier et baron d'Ibelin.
Ces journées sont maintenant rythmées par les entraînements physiques et les combats. 6 heures par jour. Il faut imaginer les chevaliers comme des masses de muscles, des athlètes de haut niveau, capables de se battre aisément, avec une armure de 25 kilos sur le dos. C'est le prix de leur survie, de leur condition physique, dépend leur supériorité face à l'adversaire. C'est un jeune chevalier brillant, courageux au combat et surtout très pieux. Il est proche de son suzerain, Hugues de Troyes, probablement même ami, après avoir prouvé sa valeur sur le champ de bataille. Ils se suivront toute leur vie. Hugues de Troyes décide de partir faire son pèlerinage sur le tombeau du Christ en 1104. Hugues de Pain le suit, il a donc 30 ans. Ce voyage est le but d'une vie. On raconte tellement de choses sur cette terre d'Orient, ce royaume de Dieu. C'est un monde sans pauvreté, sans misère, épidémie ou faim. Naturellement, la vérité qu'il verra sera tout autre. Ce tombeau se trouve à Jérusalem, en Palestine, ville à la croisée des mondes. Les populations juives, musulmanes et chrétiennes vivent dans une paix relative, ou plutôt vivez dans une paix relative. Rembobinons un peu. En effet, quelques années auparavant, la première croisade a enflammé le Moyen-Orient. Pourquoi ce déchaînement de haine et de cruauté ? C'est une longue histoire, bien entendu, mais voyons les grandes lignes. Les Turcs Seldjoukides, des guerriers nomades d'une redoutable efficacité venant des plaines d'Asie centrale, battent l'Empire chrétien byzantin, ou plutôt l'Empire romain d'Orient, si vous préférez, à la bataille de Manzikert. Une humiliation sans pareil. Il ferme ainsi la route des pèlerinages à Jérusalem. La ville, qui était tenue par des musulmans chiites, offrait la possibilité à toutes les communautés religieuses d'y vivre et d'y faire un pèlerinage. La ville sainte tombe finalement aux mains des Seldjoukides, qui massacrent les chrétiens ou, pour les moins chanceux, les réduisent en esclavage. À la tête de l'Église, un changement de doctrine profond s'opère. Il faut passer à l'offensive. Cela veut dire que l'Église va cautionner des guerres et des meurtres, tout cela en échange du salut éternel, le paradis chrétien. Ainsi, le pape Urbain II, lors de son passage en France, appelle les seigneurs à la croisade pour libérer Jérusalem. Il proclame « Prenez la roue du Saint-Sépulcre, arrachez ce pays des mains de ces peuples abominables et soumettez-les à votre puissance. » Auquel les chevaliers fanatisés répondent « Dieu le veut !»
Dieu le veut ! Dieu le veut !
D'immenses armées sont levées partout en Europe avec la promesse suprême d'abolition des péchés. L'armée de pèlerins armés se met en marche en 1095. Il leur faudra atteindre Constantinople, l'actuel Istanbul, où ils recevront la protection et l'aide de l'empereur Alexis Ier. Ensuite, ils traversent la Turquie et redescendent le long de la Méditerranée. C'est un long périple semé d'embûches. Il faut assiéger chacune des places fortes, comme les villes de Nicée et d'Antioche. On affame et on massacre les armées et populations adverses. Mais les troupes chrétiennes sont de moins en moins nombreuses. En effet, ils sont sans cesse attaqués et c'est un énorme convoi peu mobile, avec beaucoup d'hommes à pied. À cela s'ajoutent les famines, durant l'hiver où les chevaliers assiègent Antioche. Bref, quand ils arrivent à Jérusalem 4 ans plus tard, ils ne sont plus que 10 000, mais ils sont ragaillardis. En bas des murailles de la ville sainte de Jérusalem, le siège commence. L'armée chrétienne monte tour et catapulte. Rapidement, on repère une faiblesse dans la face nord du mur, et il s'écroule sous les projectiles lancés par les engins de siège. Et ils envahissent la ville. En 1099, la première croisade est terminée. Rebobinons 5 ans plus tard, où l'on retrouve notre cher Hugues en route vers la Palestine pour son pèlerinage. Il a probablement embarqué de Marseille pour débarquer à Antioche avec ses chevaux. Il apprend peu à peu les crimes qu'ont perpétrés les soldats du pape tout au long de leur périple pour finir par un massacre à Jérusalem. Les juifs qui ont aidé les musulmans pour la défense de la ville se sont réfugiés dans la synagogue que les chevaliers vont barricader et incendier. Quant aux sévices infligés aux musulmans, l'écrivain de l'époque Raoul de Caen en parle à la suite du siège très difficile d'Antioche. Les nôtres firent cuire les païens adultes dans des marmites et embrochèrent les enfants pour les manger rôtis. Tous les musulmans sont à leur tour tués ou chassés de Jérusalem. Pendant son périple, il se rend compte également de la précarité des pèlerins catholiques. Ils sont pour la plupart paysans, sans armes et totalement sans protection face aux pillards de la région. Les massacres de colonnes de ces pauvres gens en quête du salut éternel sont donc fréquents. Hugues de Pin est parti en Terre Sainte aux côtés de son suzerain, le comte de Champagne, non seulement pour se recueillir sur le tombeau du Christ, mais aussi pour guerroyer contre les musulmans. Ce qu'il fera courageusement, à tel point qu'à son retour en France, son suzerain lui offre le domaine de Pin, la terre de ses ancêtres, et lui donne en mariage la belle Élisabeth de Chappe, qu'il jure d'aimer jusqu'à son dernier souffle. Ils auront 4 enfants à 2, en seulement 5 ans. Il semble que ces années aient été particulièrement heureuses. En effet, il tire profit de ces terres que cultivent ses métayers et partage son temps entre sa famille, la chasse et les entraînements. Malheureusement, le bonheur est de courte durée. Sa femme meurt en couche, comme c'est assez régulièrement le cas à l'époque. Hugues décide de s'installer définitivement en Palestine pour chercher le salut de sa femme. Pour le salut de sa femme, pas seulement. Il aime cette terre de Palestine, ce nouveau monde qu'il faut construire, berceau des grandes religions. C'est également une terre d'aventure gorgée de soleil. Il part donc rejoindre ses anciens amis, dont fait partie Godefroy de Saint-Omer, reconnu comme l'un des meilleurs chevaliers de la première croisade. Hugues va donc guerroyer pour protéger les territoires conquis. Baudouin II, roi de Jérusalem, fait face à une problématique de taille. Il a peu de soldats, la plupart étant repartis chez eux, en Europe, pour protéger un territoire énorme dont toutes les frontières sont sensibles, car font face à des armées musulmanes. En interne, les routes et les villes sont remplies de brigands. Il fait le choix de privilégier la sécurité extérieure du royaume. Il va donc renforcer Jérusalem et les différentes places fortes et leur allouer tous les soldats et chevaliers. Cela laisse le champ libre aux brigands. Ils peuvent détrousser sans rien craindre les nombreux pèlerins faisant le chemin à pied et bien entendu sans armes, vu que Dieu est de leur côté. Donc pourquoi auraient-ils besoin de protection ? Les massacres de pèlerins sont donc nombreux et les voleurs sont attirés dans la région par ces proies faciles. Plusieurs fois, Hugues et ses amis chevaliers attaquent ces vauriens pour protéger les fidèles. Pour ça, ils ont une technique efficace. Les chevaliers qui montent de puissants chevaux harnachés eux-mêmes de protection prennent une position en pointe et foncent littéralement dans le tas, en plein centre, toutes les lances sorties. séparer en deux le groupe d'ennemis afin de les faire fuir, ou au moins de pouvoir les attaquer séparément, en se battant à l'épée et au bouclier. Et cela marche, les succès sont nombreux. Hugues de Pin intègre une première milice, les Chevaliers du Saint-Sépulcre. Ils sont chargés de protéger les lieux saints de la chrétienté en Palestine. Et une idée leur vient, à lui et son ami Godefroy de Saint-Omer. Créer une milice en charge de protéger le lieu saint, mais également les pèlerins, qui sont sans cesse plus nombreux à mourir sur les routes vers Jérusalem. Ils veulent aller plus loin. Ils sont actuellement logés chez les hospitaliers, des moines chevaliers. Mais ils n'ont de chevaliers que leur nom. Leur mission est de soigner les pèlerins sur la route vers le Saint-Sépulcre. Ce sont des moines au premier sens du terme. Hugues reprend donc cette idée de moine chevalier au sens littéral. Avec la bénédiction du pape, il tue déjà au nom de Dieu. Il veut s'officialiser en tant que serviteur du Christ, devenir un moine soldat. Il réunit sa dizaine d'amis proches en Terre Sainte pour leur partager l'idée et ils acceptent. Prononcer ses vœux monastiques sous-entend des sacrifices. Les règles de la vie monastique écrites par Saint Benoît au Xe siècle étant très strictes. Leur vie doit être dorénavant entièrement tournée vers Dieu. Les moines se réunissent 8 fois par jour pour prier, font vœux d'abstinence et doivent travailler parfois durement. Ils vont mener une véritable campagne politique de persuasion pour devenir ces moines guerriers. En commençant tout d'abord par le roi de Jérusalem, Baudouin II, qui y voit tout de suite un énorme avantage. Ses lignes de défense étant très étirées, il ne peut tout simplement pas protéger les pèlerins. Ce qui pose un problème de taille. Son rêve étant de créer un monde nouveau, développer une économie florissante, afin de faire de cet État un État puissant, capable de se protéger et de compter sur la scène internationale. Il faut donc attirer les forces vives d'Europe, des paysans, des charpentiers, etc. Mais comment les attirer, sachant que la route est un véritable coupe-gorge ? Baudouin II rédige donc une lettre de soutien à destination du pape. La création de cet ordre, que l'on appelle les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, la première véritable Militia Christi, est soumise au Concile de Naplouse en 1120. Le Concile étant une assemblée d'ecclésiastiques qui se réunissent afin de décider des nouvelles règles et disciplines à mettre en place dans l'Église. Ce sont des événements d'une grande importance, car la puissance politique de l'Église est énorme, elle est supranationale. Ces règles édictées sont mises en application dans tous les royaumes chrétiens. Ce concile a été réuni car depuis la conquête de Jérusalem, les calamités s'accumulent. Invasion de sauterelles, famine, défaites militaires, comme la dernière bataille du Champ du Sang, qui tire son nom du sang des chevaliers chrétiens qui auraient recouvert tout le champ de bataille situé entre Alep et Antioche. Le concile met en place des sanctions beaucoup plus sévères envers les péchés qui sont bien entendu la cause de ces calamités. L'adultère est par exemple puni de castration pour les hommes et d'ablation du nez pour les femmes, et la sodomie est punie du bûcher. Hugues et ses amis prouvent leur bravoure, particulièrement dans un lieu, réputé comme étant le lieu de passage le plus dangereux pour arriver à Jérusalem, le défilé d'athlètes, au sud d'Haïfa, en Palestine. Déjà affublé d'une croix rouge, l'abbé Bernard de Clairvaux dresse le portrait de ses chevaliers. Il se coupe les cheveux ras, sachant de par l'apôtre que c'est une ignominie pour un homme de soigner sa coiffure. On ne les voit jamais peignés, rarement lavés, la barbe hirsute, puant la poussière, maculée par les harnais et par la chaleur. Pas très hollywoodien comme portrait. Imaginez-les, avec leur cotte de maille, le bouclier, le casque, la tunique blanche avec la fameuse croix rouge, et surtout leurs armes. Une épée, une lance, une masse et 3 couteaux. Les récits de pèlerins sauvés sont nombreux et commencent à faire la renommée de ce que l'on appelle déjà les chevaliers du temple, voire déjà des templiers. Pourquoi ce nom ? Cela fait encore vibrer les historiens et chasseurs de trésors aujourd'hui. L'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon sont hébergés sur le mont du Temple à Jérusalem, dans une aile du palais du roi, dans l'ancienne mosquée Al-Aqsa. Elle a été construite sur les ruines présumées du temple mythique, voire mystique, de Salomon, détruit près de 6 siècles avant la naissance de Jésus. Hugues de Pin ne manque néanmoins pas d'ambition. Il veut faire grandir son ordre et qu'il lui survive. Il lui manque des moyens et des chevaliers jeunes et vigoureux. Pendant 2 ans, il va donc parcourir l'Europe à la recherche de chevaliers et de ressources pour son ordre. Et c'est comme cela qu'il met en place son réseau de commanderies. Ce réseau fera des Templiers l'organisation la plus riche de la chrétienté, plus riche que le plus riche des pays connus à l'époque. Ces commanderies sont des propriétés, de grandes fermes, des châteaux parfois, avec des territoires attenants. Ces domaines sont donnés par de riches seigneurs, avec l'espérance bien entendu de pouvoir accéder au paradis. Ici on cultive, on élève des moutons, ou on fait du lait, de la bière, tout cela au profit de l'ordre, pour envoyer de l'argent en Palestine et financer la guerre sainte. Les chevaliers ont besoin de chevaux, au moins 3 par homme, et d'armes d'excellente qualité. Ils doivent construire des forts pour protéger les routes, engager des mercenaires. Tout cela demande énormément d'argent. Une fois sa tournée européenne finalisée, le concile de Troyes est organisé pour que l'ordre soit reconnu par le pape, Honorius II. Le gratin de la chrétienté se réunit donc pour cet événement. Les fonctions guerrières et ecclésiastiques ont toujours été séparées dans la société catholique. Qu'elles soient réunies en un seul ordre est pour le moins extraordinaire. Saint Bernard écrit « Le chevalier du Christ donne la mort en toute sécurité et la reçoit dans une sécurité plus grande encore lorsqu'il tue un malfaiteur. Il n'est point homicide, mais malicide. La mort qu'il donne est le profit de Jésus-Christ et celle qu'il reçoit, le sien propre. » Hugues repart en Terre Sainte pour reprendre sa lutte pour protéger les pèlerins. Son ancien suzerain et ami, le comte de Champagne, abdiquera et le rejoindra dans son ordre. Hugues de Pin prendra part au combat jusqu'à sa mort en 1136, à 62 ans, un âge plus que raisonnable au vu de son train de vie. Quelques mots pour vous parler de l'ordre des Templiers à la suite de la mort d'Hugues de Pin. Hugues va léguer un ordre à la hiérarchie claire, permettant un développement rapide. De plus, au vu des actions héroïques des Templiers en Terre Sainte, les dons en terre sont nombreux. Les richesses de l'ordre vont aussi s'accroître en outre grâce à l'invention du système de lettres de change. Concrètement, il était compliqué pour un pèlerin de voyager avec ses richesses car les routes n'étaient pas sûres. Ainsi, vous n'aviez qu'à aller à la commanderie la plus proche de chez vous, déposer vos richesses et l'on vous fournissait un papier signé du sceau des Templiers. Une fois arrivé en Terre Sainte, vous pouviez retirer votre argent avec ce chèque avant l'heure. Ce qui était une opération fructueuse pour tout le monde. Malheureusement, les pèlerins n'arrivaient pas tous en vie. L'argent déposé était donc converti en legs à l'ordre, pour prier l'âme du pauvre pèlerin, bien entendu. Et pour ceux qui y arrivaient, on contournait l'interdiction d'usure en facturant des frais de transfert. Les banquiers modernes n'ont rien inventé. L'ordre s'est donc développé via ses commanderies. Mais très vite, les Templiers ont été vus comme orgueilleux. Et les expressions « boire comme un Templier » ou « jurer comme un Templier » devenaient communes. Malheureusement pour eux, la chrétienté a perdu peu à peu toutes leurs possessions en Terre Sainte. Les Templiers ont donc perdu de leur superbe. Et quand le roi de France, Philippe le Bel, a des problèmes de financement et qu'une grande partie des dettes de la France sont contractées auprès des Templiers, il a trouvé le coupable idéal. Bref, l'histoire se termine dans le sang et les flammes, près de 2 siècles après la création de l'ordre par Hugues de Pin. On arrête les dignitaires templiers et on les torture jusqu'à ce qu'ils avouent qu'ils ont renié le Christ et la Sainte Croix, et cerise sur le gâteau qu'ils pratiquaient la sodomie. Le bûcher était donc tout indiqué, et c'est donc un vendredi 13 de l'année 1307 que Jacques de Molay, le dernier grand maître des templiers, fut brûlé en maudissant toute la descendance de Philippe le Bel.
Des innocents qui meurent! Honte sur vous tous! Dieu vous jugera! Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment! Maudit! Maudit! Soyez maudit! Jusqu'à la 13e génération de mon race. Maudit !
D'où la légende du vendredi 13 maudit. Petit disclaimer concernant cette malédiction. Tous les historiens s'accordent à dire qu'elle est totalement fantaisiste, mais elle donne tellement plus de charme à l'histoire. Le sujet des croisades est assez sensible, et en écrivant ce podcast, mon intention était d'être aussi objectif que possible, les faits historiques étant souvent interprétés. Réagissez pour me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter sur Apple Podcasts ou à me contacter directement sur le site internet ou l'Instagram de l'émission. À très vite.